Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La France, le pays des droits de l'homme, le paladin de toutes les libertés, le foyer spirituel où viennent se réchauffer les esprits assoiffés de culture. Oui, les rapports entre Haïti et la France furent toujours très étroits, ne serait-ce que par l'écoute de la radio, des émissions en provenance de Paris. Mais le sujet du monde comme il va, que l'on va entendre, est de père en fils, les trois Dumas. La maison Dumas au milieu des cannes à sucre, des bananeraies et des caféiers. Donc, une émission sur les trois Dumas. Oui et non, les trois Dumas se font attendre. Mais attendre André Mauroy évoquer les trois Dumas en question, c'est déjà en soi un plaisir. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 28 mars 1956.
Il y a quelques semaines, la radiodiffusion télévision française avait le grand plaisir de diffuser une émission réalisée à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du général Dumas, le père d'Alexandre Dumas père. Cette émission avait été réalisée grâce au concours de l'association France-Haïti, au concours également de notre ami Max de Vaucorbeil, et nous pensons qu'au moment où cette émission va être diffusée vers les Antilles, il est intéressant, il est nécessaire et indispensable de demander au docteur René Gentil, qui est ambassadeur d'Haïti en France, de nous présenter en quelque sorte, ou plus exactement, de présenter à ses compatriotes notre émission. Voyons, monsieur l'ambassadeur, voulez-vous présenter les Antilles aux Antillais?
C'est avec plaisir que je le fais. Les Antilles constituent une région particulière dans l'Amérique. Elles ont joué un très grand rôle dans la découverte du Nouveau Monde. C'est à Haïti, il faut qu'on se rappelle, que Colomb fixa sa première résidence, et c'est à Haïti qu'il fit aussi le premier établissement dans le Nouveau Monde. C'est d'Haïti que partirent les Espagnols, d'Haïti des Antilles, on peut dire que partirent les Espagnols pour la conquête du Nouveau Continent.
Dites-moi, mais j'ai l'impression que dans le monde moderne, avec l'accélération des transports, les Antilles, qui étaient en somme assez éloignées du reste du monde, et spécialement de la France, se sont tout d'abord rapprochées les unes les autres, et ensuite se sont rapprochées du restant du monde, et spécialement de la France, n'est-ce pas?
En effet, la multiplication et la rapidité des moyens de communication ont rapproché l'une de l'autre les nombreuses îles caraïbéennes. Les Antillais, se voyant plus souvent et plus facilement, se connaissent mieux. Les contacts directs et fréquents développent les sentiments de fraternité et de solidarité. Dans ce domaine, évidemment, la radio n'a pas d'égal. Grâce à elle, les pays de l'Amérique, principalement les Antilles de langue française, se sont mieux rapprochés, se sont mieux connus.
Je crois qu'il y a une chose, monsieur l'ambassadeur, qui est très émouvante pour nous Français, c'est de penser que Haïti est le seul pays indépendant au monde qui soit rigoureusement et absolument francophone. C'est pour nous vraiment une très grande satisfaction. Et croyez bien que pour la RTF, c'est également une très grande satisfaction de diffuser, de préparer, de diffuser cette émission consacrée aux Dumas, aux trois Dumas. Mais puisque vous êtes président d'honneur de l'association France-Haïti, je voudrais que vous répétiez, ne serait-ce que pour notre seul plaisir, combien sont intéressantes et importantes les relations entre Haïti et la France.
Il y a des liens extrêmement étroits qui unissent la France et Haïti. Les Haïtiens sont très fiers de leur culture française, ils y sont très attachés. Aussi, c'est pour eux un grand plaisir quand ils captent une émission de la radio française. Ils n'oublient pas que la France est le pays des droits de l'homme, le paladin de toutes les libertés, le foyer spirituel où viennent se réchauffer les esprits assoiffés de culture. Les Haïtiens retrouvent Paris, la capitale de l'esprit, de l'élégance et de la beauté, avec ses charmes, ses plaisirs, chaque fois qu'un le message envoyé des bords de la Seine, transporté par les ondes, leur parvient à l'instant même où il est émis.
Eh bien, je crois que vous pouvez peut-être profiter de l'occasion, monsieur l'ambassadeur, pour dire bonjour à vos compatriotes.
Ce n'est pas sans un grand plaisir que je le fais et que je leur adresse un salut cordial. Je profite en même temps pour adresser mes respectueux hommages à son Excellence le Président de la République d'Haïti, le général Paul Magloire, en lui faisant mes voeux les plus fervents pour la prospérité et le bonheur de notre patrie.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Et maintenant, Place aux Trois Dumas.
Dans la série des émissions Le Monde comme il va, nous vous présentons ce soir De père en fils, une émission de Georges Drouet à propos du 150e anniversaire de la mort du général Dumas, célébré par l'association France-Haïti, avec le concours d'André Mauroy de l'Académie française, de Max Petit et de Max de Vaucorbeil. Mise en onde, Marguerite Tarrère.
Papa moi allez nan guinem pa genye zanmi ou.
Cette émission s'appelle De père en fils, mais elle pourrait aussi bien s'appeler D'amitié en amitié. Elle n'est pas en effet seulement l'histoire très brève des trois Dumas, des trois Alexandre Dumas, mais elle est aussi l'histoire de l'amitié entre Haïti et la France. Max Petit a été longtemps et à plusieurs reprises en Haïti, et je voudrais lui poser une question. Max Petit, dans une petite brochure, on a écrit « Il existe au dehors de la France un seul pays indépendant dont la langue officielle soit exclusivement le français, la République d'Haïti ». Ceci suppose une réalité géographique, économique, et je voudrais tout d'abord que vous nous décriviez l'arrivée en Haïti.
Oh oui, la musique que je viens d'entendre a eu pour moi une grande puissance d'évocation. Elle me rappelle mon premier voyage en Haïti. Vous savez, voilà comment ça se présente. L'avion frôle les sommets qui se dressent à 3000 mètres au cœur de la grande île que des géographes décrivent comme un faisceau de rides montagneuses surgissant de la mer. Il bascule vers les eaux calmes d'une vaste rade. Au fond de celle-ci, bien abritée, s'étend la ville de Port-au-Prince, aux maisons basses, aux rues droites et larges, et sur les collines, presque enfouies au sein de l'exubérante flore tropicale, les villas des quartiers résidentiels font des taches de couleurs vives. Plus haut, sur la première barrière de haute montagne, c'est Kenskoff. C'est le refuge de la découverte, c'est le village de Furcy, à 1700 mètres d'altitude, d'où l'on domine la plus grande forêt de pins des Antilles, et où l'hiver, on brûle dans l'âtre des grandes cheminées des troncs d'acajou. C'est la Suisse haïtienne, que de Cobra appellerait le rendez-vous des créoles en pull au vert. Là, chante au bord des nuits, l'oiseau mystérieux, l'oiseau musicien, l'un des plus rares que l'on connaisse, qui lance quatre notes claires, triées, que l'on dirait émises d'une flûte sylvestre. L'avion se pose doucement sur la piste de l'aéroport, qui est très proche de la capitale. Formalité rapide, les fonctionnaires de la douane contrôlent nos bagages, nous donnent le visa de courtoisie, et aussitôt, ils me questionnent. Tous, me disent-ils, écoutent chaque jour les émissions de Paris à destination des Antilles. Ils me font part de leurs remarques, de leurs suggestions. Nous voulons davantage d'émissions. C'est notre moyen d'être en contact quotidien avec la France. N'oubliez pas, insiste-t-il, que nous sommes les seuls représentants aux Amériques de la culture et de la langue française. Notre langue, c'est le français. Nous en sommes nourris de Molière, Racine, Hugo, etc. Et bienvenue en Haïti, lit-on sur une pancarte. Oui, sincère bienvenue, nous le sentons.
Et on peut imaginer aisément que le premier son que vous allez entendre en Haïti est celui d'une vieille chanson de la colonie française, « Nous canons à tirer ».
Oui, malheureusement, le canon a tiré en 1804 pour séparer la France d'Haïti, pour consacrer l'indépendance de ce pays. Et ce qui est curieux, c'est que le 150e anniversaire du 1er janvier 1804 a été célébré avec faste en Haïti et qu'on n'a jamais autant parlé de la France à cette occasion. C'est que, au fait, il faut se souvenir que c'est en français que Dessalines a prononcé le serment de l'indépendance. Et je crois qu'on peut dire qu'en perdant une colonie, la France a gagné l'amitié d'un peuple. Contre les impératifs économiques trop souvent donnés comme des lois absolues de l'évolution historique, contre les ressentiments issus d'une guerre qui fut certes atroce de part et d'autre, les raisons du cœur, les impulsions de l'esprit ont prévalu. En effet, comme l'a dit le général Nemours qui vient de mourir, un historien haïtien, la France est la plus grande patrie de l'homme noir. Car il faut bien se le répéter, disait le général Nemours, la première fois qu'un homme de notre race a été citoyen, il a été citoyen français. La première fois qu'un homme de notre race a été officier, il a été officier français. Et notre acte de naissance, où se trouve-t-il ? N'est-ce pas en France, dans la Déclaration des droits de l'homme ?
Eh bien, je crois que maintenant que nous venons de pénétrer en Haïti, il y a un personnage qui nous attire tout de suite. Max Petit vient de parler du 150e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Ce soir, nous parlons, nous, du 150e anniversaire de la mort d'Alexandre Dumas, le premier Alexandre Dumas. Max de Vaucorbeil, vous qui avez vécu également beaucoup en Haïti, ne pourriez-vous nous en parler ?
J'ai eu la chance de faire de très longs séjours en Haïti et d'aller notamment dans la ville de Jérémie, une petite ville de la côte ouest d'Haïti, où est né le général Dumas. J'ai été dans la propriété même où s'élevait la maison des parents du général Dumas. Et je dois dire qu'au milieu de ces plantations de canne à sucre, de ces plantations de café et de bananeraies, il était assez curieux d'évoquer le général Dumas, qui, en quelque sorte, a donné naissance à des œuvres aussi typiquement françaises que Les Trois Mousquetaires ou La Dame aux Camélias. À Jérémie, il y a bien entendu la place du général Dumas, comme à Port-au-Prince, il y a le Champ de Mars, comme au Cap-Haïtien, il y a encore la rue d'Anjou et la rue de Penthièvre. Et tous ces souvenirs sont fort émouvants pour nous Français qui allons en Haïti, ce pays qui est un des rares lieux du monde où l'on puisse encore se laisser aller paisiblement à la joie de vivre.
Voici maintenant revenu à Paris et nous allons entendre la conférence que prononça l'autre soir M. André Mauroy de l'Académie française sur les trois Dumas.
Un heureux mélange de sang leur avait donné à tous trois une force presque surhumaine. Chez le général, elle a été force physique. Chez Dumas père, imagination. Chez Dumas fils, raison. Chez tous trois, générosité. Ah, ces Dumas, disait Théophile Gautier, quelle famille ! Tous les Dupont et tous les Durand vont en crever de jalousie. Mais les Dupont et les Durand ont eu au contraire la sagesse d'admirer. Rien n'est plus intéressant que de suivre, à travers trois générations, les formes chaque fois neuves de cette force géante. Je vais vous demander d'imaginer, vers la fin du XVIIIe siècle, la petite ville de Villers-Cotterêts, qui se trouve au nord de Paris, sur la route de Soissons et de Laon. La ville avait été un fief de la maison d'Orléans et elle avait prospéré sous l'Ancien Régime étant le siège d'une véritable cour. Le grand nombre des visiteurs permettait à plus de 30 auberges et hôtelleries de faire leurs affaires et l'une d'elles, à l'enseigne de l'Écu, appartenait à Claude Labouret, ancien maître d'hôtel du duc d'Orléans. Ce titre faisait de Labouret un personnage, de sorte que, quand éclata la Révolution, il devint commandant local de la garde nationale. Villers-Cotterêts, ville très paisible, fut alarmée après la prise de la Bastille. Sur la demande des notables, le régiment des dragons de la Reine, en août 1789, détacha à Villers-Cotterêts 20 dragons et un officier pour veiller sur les moissons. Tout le pays vint sur la place du château admirer les cavaliers qui avaient grand air. L'un d'eux surtout attirait les regards. C'était un superbe mulâtre dont la vigueur prenait par la finesse des attaches un je ne sais quoi d'aristocratique. Quand la population se partagea les soldats à loger, Marie-Louise-Élisabeth Labouret, une jeune fille, demanda à son père, qui, comme commandant de la garde nationale, avait le droit de choisir son soldat, de réclamer le beau mulâtre. Celui-ci se nommait Alexandre Dumas et il fut vite adoré de ses hôtes, car il était aussi aimable que vigoureux. Ses camarades racontaient qu'il était le fils d'un marquis et qu'il se nommait réellement Dumas Davy de la Paître. C'était vrai. Son père, ancien colonel de noble famille normande, était parti en 1760 pour Saint-Domingue et il y avait eu d'une esclave, Cécette Dumas, ce fils qu'il avait reconnu. Le jeune cavalier était instruit, bien élevé. Il s'était engagé dans l'armée quand son père, à 78 ans, avait épousé sa femme de chambre. Une idylle s'ébaucha très vite entre le dragon et la demoiselle Labouré. L'hôtelier eût été favorable au mariage immédiat, mais le prétendant voulait d'abord avoir un grade. Cela ne tarda guère. Il était célèbre dans son régiment pour ses prouesses herculéennes. C'était un homme qui pouvait prendre 4 fusils et mettre leurs canons sur les 4 doigts de sa main et soulever les 4 fusils horizontalement. En 3 ans de guerre, il devint brigadier, sous-lieutenant, lieutenant, et quand il reparut à Villers-Cotterêts en 1792 pour y épouser sa fiancée, il portait les galons de lieutenant-colonel. Les époux furent tout de suite séparés, car Dumas repartit pour les guerres. 1 an plus tard, il fut fait général de brigade, 6 semaines plus tard, général de division. À 32 ans, il était général commandant en chef. Les révolutions donnent une chance à la jeunesse. Commandant en chef, il se distinguait, comme toujours, par des exploits épiques. Avec quelques hommes, il s'empara du Mont-Cenis, où les Autrichiens s'étaient retranchés, en l'escaladant à l'aide de crampons par une roche à pic. Arrivés au sommet, ces hommes rencontrèrent une palissade et eurent quelques peines à la franchir. « Laissez-moi faire, dit le général Dumas. » Il empoigna ses hommes l'un après l'autre par la culotte et les jeta par-dessus la palissade sur l'ennemi terrifié. Tactique digne de Gargantua. Ce géant était doux et bon. La guillotine qui suivait alors les armées lui faisait horreur. Un jour, pour empêcher le bourreau de s'en servir, il fit démonter l'affreuse machine et réquisitionna les bois de justice pour se chauffer. De tels gestes ne plaisaient guère au commissaire aux armées qu'il appelait « Monsieur de l'humanité ».
C'était là un nom qui n'avait aucune chance de plaire à Bonaparte, bien qu'il ne fût pas encore Napoléon. Et le général Dumas, accusé par son chef d'indépendance d'esprit, voire d'intolérance à la dictature, se fâcha avec le général en chef. Il devait être le seul, d'ailleurs, à souffrir de cette fâcherie, et après avoir dû, disgracié, quitter l'Égypte, connut les prisons du royaume de Naples, d'où il sortit gravement malade.
Enfin, un armistice fut signé, et, prématurément vieilli, le pauvre général Dumas put rejoindre sa femme à Villers-Cotterêts en 1801. Bonaparte, rentré en France, lui, sans encombre, était alors devenu premier consul. Dumas, qui ne possédait rien, lui écrivit pour réclamer sa solde arriérée et pour demander à reprendre du service. Mais les grands ambitieux pardonneraient plus volontiers une faute grave qu'un manque de dévouement à leur personne. Toutes les lettres du général Dumas restèrent sans réponse. Quand des amis voulurent intervenir en sa faveur, le visage du premier consul se rembrunit et se ferma. « Je vous défends de me parler de cet homme-là, » dit-il. Lorsque la phrase fut rapportée au malheureux disgracié, « Quand je pense, » dit Dumas, « que je l'ai tenu dans mes bras et que je pouvais l'étouffer. » Mais ce sont là des pensées que les braves gens ont toujours trop tard. 9 mois après son retour, le 5 Thermidor en 10, c'est-à-dire le 24 juillet 1802, un fils lui était né, et avait été déclaré sous le nom d'Alexandre Dumas. C'est en 1813 qu'une rectification d'état civil fit légalement de cet enfant Alexandre Dumas Davy de la Paître. En 1806, Napoléon Ier étant empereur, Dumas emmena son fils à Paris pour le présenter à ses anciens frères d'armes, Brune, Murat. Il espérait ainsi lui assurer des protecteurs. Mais ses généraux furent très froids, craignant de se compromettre avec un homme en disgrâce. Quand il rentra à Villers-Cotterêts, désespéré, le général essaya une fois encore de monter à cheval dans la forêt. Mais la douleur vainquit le vainqueur. Au retour de cette dernière chevauchée, il dut se mettre au lit et il eut un moment de délire. « Oh !» s'écria-t-il, « faut-il qu'un général qui, à 35 ans, avait commandé en chef 3 armées, meure à 40 dans son lit comme un large ? Mon Dieu, que vous ai-je donc fait pour me condamner si jeune à quitter ma femme et mes enfants ?» Il vit un prêtre, se confessa, puis s'étant retourné vers sa femme, il expira dans ses bras en février 1806.
La rancune de Napoléon devait survivre à la mort du général et enlever au jeune Alexandre toute possibilité d'aide officielle.
L'enfant était intelligent, peu travailleur, sa mère et sa sœur lui apprirent à lire et à écrire. En arithmétique, il ne put jamais aller plus loin que la multiplication. En revanche, il eut vite une écriture superbe, tout ornée de fioritures. Un graphologue y aurait décelé de la vanité, et en effet, le garçon avait tendance à se vanter. À la vérité, il se vantait pour se rassurer lui-même. Fils d'un homme en disgrâce, très pauvre, il avait besoin de réussir, et il était bien résolu à triompher. Mais triompher sur quel terrain? Il n'en savait rien. Des rencontres de hasard, une représentation à Soissons de l'Hamlet de Shakespeare traduit par Ducis, lui inspirait un vague désir d'une carrière théâtrale. Mais que faire à Villers-Cotterêts? Pourtant, avec des camarades, il montait déjà des drames dans les greniers, et dès qu'il fut en âge d'aller à Paris, il y courut. Chercher la gloire est un but, mais il faut en attendant vivre. Ce fut la belle écriture qui sauva le jeune homme et il entra comme employé dans les bureaux du duc d'Orléans au Palais Royal. Il gagnait 100 francs par mois, allait au théâtre tous les soirs, habitait une petite chambre sur la place des Italiens, là où est actuellement l'Opéra Comique, et avait entrepris de séduire une tendre couturière qui était sa voisine de palier place des Italiens et qui avouait 8 ans de plus que lui. Catherine Labbé, la couturière, avait créé là un petit atelier de quelques ouvrières qu'elle dirigeait avec compétence. Le dimanche, Alexandre Dumas emmenait sa voisine dans les bois de Meudon. On s'arrêta d'abord sur l'herbe, puis dans une grotte obscure. Qu'y a-t-il de plus dangereux pour la vertu des couturières que les grottes? Le jeune Carteron aux yeux bleus était fougueux, persuasif, effrayamment viril et singulièrement beau. Bientôt, Catherine sut qu'elle attendait un enfant de lui. Elle engagea son amant par économie à venir partager son logement et le 27 juillet 1824 naquit un gros garçon qui fut baptisé Alexandre, troisième du nom. Il gagnait 4 francs 5 sous par jour. En 1827, une troupe d'acteurs anglais vint donner à Paris des représentations au théâtre Favart. Deux grands acteurs, Frédéric Lemaître et Marie Dorval, avaient élevé le mélodrame à la dignité d'un art. Les acteurs shakespeariens trouvèrent à Paris un public ardent qui demandait des émotions violentes. Ce fut en écoutant les tragédies de Shakespeare qu'il comprit ce qu'il souhaitait faire lui-même, peindre librement de grandes actions, mettre en scène la violence que les classiques laissaient en coulisses, émouvoir un public par des coups de théâtre dramatiques. Il était bien loin d'avoir la science des passions qui enrichissent Hamlet ou Macbeth, mais il avait le sens du drame. Tout ce qu'il comptait devenait action. Seulement, quel sujet choisir? Les thèmes de l'Antiquité avaient été annexés par les classiques, l'histoire contemporaine était trop brûlante. Le hasard fit qu'étant allé voir le salon annuel de peinture et de sculpture, il fut attiré par un bas-relief qui représentait l'assassinat de Monaldeschi, tué par ordre de la reine Christine de Suède à Fontainebleau, dans la galerie des Saints. Monaldeschi, Christine, qui étaient ces gens-là? Le jeune Dumas ne savait absolument rien de cette sombre aventure. Il emprunta à un ami, Frédéric Soulier, qui lui aussi voulait faire du drame, une biographie universelle pour lire l'article Christine. Là, il apprit cette histoire et il en tira une tragédie en 5 actes et en vers. L'auteur avait 25 ans.
Mais Alexandre Dumas, après les difficultés matérielles de l'existence, devait en connaître d'autres, d'ordre non pas sentimental mais théâtral, avec Mademoiselle Mars, qui se refusait à jouer les héroïnes échevelées et pantelantes du théâtre selon la nouvelle formule.
Mais Dumas, jamais vaincu, avait, dans l'intervalle, écrit une seconde pièce, Henri III et sa cour. Celle-là fut jouée et elle obtint un triomphe. Mais un véritable triomphe. À la fin de la pièce, tout le public se leva, y compris le duc d'Orléans, et fit une ovation à l'auteur. Et il ne faut pas oublier que la représentation d'Henri III, premier des grands drames romantiques, est antérieure à celle d'Hernani et que cette représentation est un événement littéraire aussi important que la première d'Hernani. Ainsi, à 27 ans, Le jeune homme, qui si peu de temps auparavant était arrivé de Villers-Cotterêts sans situation, sans protection, sans diplôme, sans argent et même sans instruction, se transformait en homme connu, presque illustre, admis comme un égal par le petit groupe brillant qui allait rénover la poésie et le théâtre en France. Au service d'une ambition immense, le jeune Alexandre Dumas mettait une imagination prodigieuse, un goût tout français du panache, la passion de l'héroïsme, une étonnante puissance de travail. Il avait réussi non parce que les circonstances l'avaient aidé, mais parce qu'il était apte à tirer parti de toutes circonstances. Pendant les quelques années qui suivirent, ce triomphe s'amplifia. Avec Antony, Dumas créa le drame bourgeois, celui qui pendant 100 ans allait occuper la scène française. En 1832, à 30 ans, il était l'un des très grands hommes de Paris. Et on le vit bien le soir de son fameux bal. Le roi, Louis-Philippe, avait donné un bal et les artistes, les écrivains du temps dirent à Dumas, « Donnez-en un, vous aussi. » On ne peut imaginer ce que ce fut que le bal de Dumas. Le journal L'Artiste écrivit « Soyez prince, soyez roi, soyez banquier, ayez une liste civile de 12 millions, une fortune d'un milliard, je vous défie de créer une fête aussi brillante, aussi gaie, aussi nouvelle. Vous aurez de plus vastes appartements, un souper mieux ordonné, des gendarmes aux portes, mais vous n'aurez pas à Beaudenier comptant ces fresques improvisées faites de main de maître. Vous n'aurez pas cette jeune et folâtre réunion d'artistes et de célébrités. Vous n'aurez pas surtout la cordialité franche et entraînante de notre premier dramaturge, Alexandre Dumas. » Après le souper, qui fut un souper de noces de cana, le bal recommença. Un galop bruyant tourbillonna autour de l'appartement, ébranlé par cette ronde joyeuse. On se croyait transporté au milieu d'un sabbat où les sorcières jeunes et belles étaient accourues des quatre parties du monde pour gagner des armes au diable. Alors le vertige s'empara des têtes les plus graves. Monsieur Odilon Barrault, homme d'État pompeux et timoré, dansait avec une folie. Et à 9h du matin, musique en tête, on sortit dans la rue et l'on ouvrit là un dernier galop dont la tête atteignait le boulevard tandis que la queue frétillait encore dans la cour du Square d'Orléans. Ce galop endiablé est un symbole. Il y avait 10 ans à peine que ce jeune homme avait quitté sa petite ville de province avec 50 francs en poche pour s'élancer à la conquête de Paris. 10 ans. Et voilà que lui et lui seul pouvaient entraîner tout ce qu'il y avait à Paris de plus brillant, de plus spirituel et de plus beau dans cette farandole géante. Ce que fut la production de Dumas pendant 30 ans, on a peine à le croire. Plus de 600 volumes, 15 volumes de théâtre à 3 ou 4 pièces par volume. Pendant ces 30 années, Dumas gagna des millions. Il les dissipa en aventures amoureuses, en constructions folles, comme ce petit château de Monte-Cristo que vous pouvez encore voir sur la route de Paris à Saint-Germain, mais surtout en générosité pour ses amis, pour ses maîtresses et pour son fils. Car le fils de Catherine Labbé, le troisième Alexandre Dumas, en 1842 avait eu 20 ans. Il était très différent de son père. Tenait de sa mère un caractère grave, et ayant beaucoup souffert de sa vie d'enfant naturel, avait, comme son père, une âme de redresseur de tort, mais plus sur le plan de la vie privée que sur celui de l'histoire. Au début, il partagea la vie libre de son père, et il eut d'innombrables liaisons. Puis, à 24 ans, la mort d'une maîtresse qu'il avait adorée, Marie Duplessis, l'amena à regarder avec remords la vie de ces pauvres filles qui prodiguaient leur beauté. De ce drame réel, il tira la Dame aux camélias, qu'il rendit tout jeune presque aussi célèbre que son père. Entre les deux hommes, aucune jalousie. Aux premières de son fils, on voyait toujours Alexandre Dumas père, au premier rang, avec un énorme gilet blanc que gonflait son ventre, un bouquet à la main, qui, lorsqu'à la fin on appelait l'auteur, l'auteur, se levait et saluait avec un contentement énorme d'avoir été le père de ce beau garçon. Quant à Dumas fils, lui, il admirait son père. Il le tenait pour le meilleur auteur dramatique du siècle, mais il avait une âme de moraliste et il supportait mal les frasques d'un père vieillissant. « Mon père, disait-il, c'est un enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit. » La fin de ce père fut assez triste. Il s'enferma chez lui et se mit à relire ses livres d'autrefois. Qu'est-ce que tu lis ? Lui demandait son fils. Les trois mousquetaires, je m'étais toujours promis, quand je serais vieux, de me rendre compte de ce que ça vaut. Eh bien, où en es-tu ? À la fin. Et qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, c'est bien. En 1870, les nouvelles des premiers désastres l'abattirent. Il eut une attaque, son fils le recueillit dans la villa qu'il possédait à Puy, près de Dieppe. C'était le retour du père prodigue. Il éprouvait un besoin sans limite de repos. Le colosse avait tout donné, il était à la lettre épuisé. Près de son lit, sur la table, il avait 2 louis d'or, tout ce qui lui restait des millions gagnés. Un jour, il les prit entre ses doigts, les regarda longuement et dit « Alexandre, tout le monde a dit que j'étais un prodigue. Toi-même, tu as fait une pièce là-dessus, le père prodigue. Eh bien, tu vois comme on se trompe. Quand j'ai débarqué à Paris, j'avais 2 louis dans ma poche. Regarde, je les ai encore. » Bientôt, il ne parla presque plus. Quand le temps était beau, on roulait son fauteuil jusqu'à la plage et il regardait les vagues. On lui cachait l'avance des Allemands qui approchaient, il ne les vit pas. Au moment même où les fourriers prussiens marquaient à la craie les portes des maisons, on l'administrait. Il mourut le 5 décembre 1870. Son bon sourire avait été sur ses lèvres jusqu'à la fin. Il avait fallu la mort pour l'effacer de son visage. Cependant, le fils continuait sa carrière triomphale. Avant la guerre, il avait eu de prodigieux succès avec Le Demi-Monde, Le Fils Naturel, Les Idées de Madame Aubry. Après la guerre, il en eut de non moins grands avec La Visite de Noces, Denise, L'Étrangère, Francillon. Sa position dans le monde était très différente de celle du père. Dumas père avait été un bohème, Dumas fils était de l'Académie française, respecté par tous, arbitre de la morale publique. Dumas père n'avait attaché aucune importance à ses innombrables liaisons. Dumas fils marié, écoutait gentiment les femmes, non moins nombreuses, qui se jetaient à sa tête parce qu'il était célèbre et parce qu'il était beau, mais il les écartait. Nous avons peine aujourd'hui à imaginer la royauté qu'il exerça sur le théâtre pendant 30 ans. Comme son père, il faisait des mots, peut-être plus cruels. On parle devant lui d'un certain Durantin, dont il avait refait une pièce. Et quelqu'un demande « Mais qui est donc Monsieur Durantin ?»« C'est un avocat distingué, dit Dumas, auteur dramatique à mes moments perdus. » Pourtant, comme son père, vers la fin de sa vie, après 1890, il douta de l'avenir de son œuvre. Des hommes nouveaux surgissaient, Ibsen, Beck. Le public semblait se détacher de lui. Vers la fin de sa vie, il perdit sa femme et se remaria avec la fille de l'acteur Régnier. Il aimait depuis longtemps cette jeune femme. Il mourut à Marly, où il avait une maison de campagne. Tout Paris vint le voir sur son lit de mort, superbe dans son vêtement de travail, pieds nus, car il était fier de leur courbure très arquée. Et au mur, on voyait la photographie de son père et un tout petit portrait au crayon de Catherine Labbé.
Grâce à l'association France-Haïti, ce soir, nous avons pu évoquer le souvenir des Trois Dumas. Il y a loin, en apparence, certes, de Villers-Cotterêts à Port-au-Prince, des batailles de l'Empire au champ de canne à sucre, des Trois Mousquetaires de Monte-Cristo et de la Dame aux Camélias, au village et au champ traditionnel de la vieille île. Mais y a-t-il vraiment tellement loin, du moins dans la mémoire ou dans la nostalgie des hommes ?
Jolis ruisseaux semés de reflets d'argent, jolis ombrages bercés par le joli vent, joli village dans le jour qui va finir. Haïti chérie, sois mon plus cher souvenir. La 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 la.
Vous venez d'entendre De père en fils, une émission de Georges Drouet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 28 mars 1956.